Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8. Nous sommes à Vienne dans le Nord-Isère et plus précisément dans la librairie Luciole qui a eu la gentillesse de nous accueillir à l'occasion d'une rencontre littéraire avec Gaïds Minassian afin de discuter de son livre paru le 7 février 2024 aux éditions Passé Composé qui se nomme Arménie-Azerbaïdjan, une guerre sans fin. Anatomie des guerres post-soviétiques entre 1991 et 2023. Donc, Gaïds Minassian, vous êtes journaliste au Monde et docteur en sciences politiques et enseignant à Sciences Po Paris. Bonjour à vous.
Bonjour et merci.
Alors, tout d'abord, j'ai envie de mettre en avant la couverture du livre. C'est une photographie d'Albert Ovanissian, un jeune soldat de 19 ans mort lors de la guerre du Haut-Karabakh en 2020. Elle est symbolique puisque le premier ministre arménien Pachinian a été accusé par les médias et la population d'avoir envoyé la jeunesse au front. Qu'est-ce que cette photo exprime pour vous et en quoi illustre-t-elle bien vos propos dans le livre ?
D'abord, c'est une des photos qui a fait un peu le tour des agences et le tour des médias à l'échelle mondiale. Et il nous fallait, au moment de choisir la couverture, il nous fallait quelque chose qui parle, qui soit connu. Et cette photo était connue, parce que c'est pas évident d'illustrer de manière la plus synthétique et la plus forte ce conflit aux confins de l'Europe, coincé comme ça entre la guerre en Ukraine et les tensions au Proche-Orient. Donc on a choisi cette photo parce qu'on y voit toute la détermination de ce jeune soldat. C'est un hommage qu'on lui rend aussi quelque part. On y voit aussi toute la violence, puisque on voit bien l'éclat du tir, et, ou alors peut-être que ça n'apparaît pas directement, mais la photo au départ, on voyait le feu sortir de sa pièce d'artillerie. Et c'est une manière aussi de dire que cette guerre était particulièrement... Alors toutes les guerres sont violentes, bien sûr, mais celle-ci en particulier. Et on a voulu synthétiser tout ça en une photo. Alors ce qui est la petite anecdote, c'est que les parents sont francophones, l'ont vu, et ils m'ont contacté par Facebook pour témoigner de leur sympathie, et moi, bien entendu, en échange, j'ai témoigné ma solidarité, parce que cette photo, quand vous voyez le visage de ce jeune, la détermination, on la voit apparaître, mais il faut savoir que ce jeune... Parce que j'ai vu d'autres photos avant, de lui et après. Y a pas, quand vous voyez le visage de ce jeune en dehors du front, il n'y a pas plus gentil. C'est une tête de bébé. Et attention, je ne dis pas que tous les combattants ont des têtes de bébé. Mais en total contraste avec celle qui a été l'objet de ce cliché. Donc... Rappeler aussi que ce sont des jeunes qui partent au front, malheureusement, et on le voit aujourd'hui encore avec la guerre en Ukraine où Israël et le Hamas. Voilà, c'est un peu le cadre dans lequel j'ai voulu qu'on prenne cette photo et savoir ce qu'elle exprimait. Voilà.
À l'issue de la guerre entre 91 et 94, dans le livre, vous dites que Erevan et Bakou procèdent à un changement de paradigme, passer du chaos et de la guerre à la paix et au redressement économique. Et donc, comment expliquez-vous que l'Azerbaïdjan ne pense qu'à redresser son économie pour avoir les moyens de se venger de l'Arménie ?
Parce que la défaite militaire de 94 n'était pas passée. Elle était restée à travers de la gorge et que le président Aliyev, père et fils, surtout le fils d'ailleurs, à partir de 2003, disait que, en gros, vous n'avez gagné qu'une manche ou une bataille, vous n'avez pas gagné la guerre, et que tôt ou tard, les armes parleront. Donc Aliyev a prévenu l'Arménie et les Arméniens qu'une nouvelle guerre aurait lieu. Et l'Arménie, elle s'est reposée sur ses lauriers en espérant que son alliance avec la Russie était suffisamment dissuasive pour empêcher toute nouvelle hostilité de la part de l'Azerbaïdjan. Et c'est l'inverse qui est arrivé. Voilà.
Est-ce qu'il y aurait eu moyen de faire en sorte qu'ils n'aient pas à se venger, l'Azerbaïdjan ?
Ah bah. Alors l'Azerbaïdjan va dire « je ne me venge pas, je réclame justice », donc c'est différent. C'est les Arméniens qui vont dire qu'il y a un esprit de vengeance. À partartir du moment où, dans toutes les guerres, lorsque vous ne laissez pas une porte de sortie à votre adversaire, et qu'il y a une humiliation, le peuple se souvient de cette humiliation, et donc il y a une volonté de réparer, ou du moins d'en sortir, et si possible par les armes. Donc c'est très important de savoir finir une guerre sans être absolutiste, gourmand, et éviter les paix de punition ou les paix d'humiliation, mais plutôt penser à des paix de droit ou des paix justes, ce qui n'est pas évident, mais c'est tout l'objet des fins de guerre, savoir finir une guerre. On sait quand elle commence, on ne sait pas comment elle finit, et on ne sait surtout pas comment elle finit. Donc il y a le quand et le comment.
Et dans le, du coup, dans l'autre camp, l'Arménie n'a pas su tirer les bénéfices de cette fin de guerre.
Ah bah complètement.
Mais pourquoi et...
Je pense... Par manque de calcul, par manque de maturité politique, là c'est directement du niveau des élites politiques. Je pense que c'est ça qui a expliqué l'incapacité de transformer cette victoire militaire de 94 en victoire politique. Alors vous allez me dire, c'est quoi la victoire politique en l'occurrence ? Eh bien, c'est lorsque le vainqueur, militairement, remplit ses buts de guerre. Et, c'est-à-dire le volet politique. Et là, le volet politique en question, c'était la reconnaissance du Karabakh souverain. La République du Karabakh souverain. Or, ni en 91, ni en 92, ni en 93, etc., l'Arménie n'a envisagé cette perspective. Et en tant que jeune État souverain, le pouvoir régalien, c'est-à-dire en gros, pour faire simple, la diplomatie, entre autres, la diplomatie et la défense, eh bien ces deux volets qui sont vraiment, je dirais, la clé de voûte du pouvoir régalien, la diplomatie et la défense, eh bien n'étaient pas entre les mains de l'Arménie. La défense, l'Arménie comptait sur l'alliance avec la Russie. La Russie l'a trompé. Et la diplomatie, l'Arménie comptait et remettait son destin entre les mains d'un groupe de contact qui s'appelait le groupe de Minsk, coprésidé par la France, les États-Unis, la Russie. Et donc son destin diplomatique entre les mains d'un groupe de contact qui n'avait pas du tout le même agenda que celui d'Erevan. Donc à partir du moment où vous mettez votre pouvoir régalien entre les mains de puissances tierces ou d'un groupe de contact, il est évident que vous ne préparez pas en plus le renforcement de votre souveraineté, il est évident à un moment donné que vous le payez, et l'Arménie l'a payé cash.
Bah c'est clair. En fin de compte, il y a la Russie qui tire un peu toutes les ficelles de ce conflit. À quel point la guerre entre l'Ukraine et la Russie actuellement a-t-elle des conséquences sur la situation dans le Caucase ?
Waouh, vaste question. Et inversement d'ailleurs, c'est une bonne question, mais c'est inversement aussi. En quoi la guerre du Karabakh, les 44 jours, annonce-t-elle la guerre en Ukraine? Eh bien, lisez mon livre. Non, je plaisante. Prenons un facteur important. La Russie a toujours voulu, notamment la Russie de Poutine, a toujours voulu désoccidentaliser sa périphérie. C'est-à-dire que tout ce qui était signe de poussée, de progression de l'Occident sur sa périphérie, était vraiment mal vu, mal considéré par Moscou. Donc il fallait désoccidentaliser ou démonétiser tous ces leviers d'influence de l'Occident. Quand je dis Occident, c'est États-Unis et Union européenne. Et donc le groupe de Minsk était un des seuls leviers d'influence, donc la guerre du Karabakh. Et quand vous regardez la déclaration qui met fin à la guerre des 44 jours, il n'y a ni le mot France ni le mot États-Unis. Donc ils ne sont pas partie prenante de la résolution du cessez-le-feu. Et pour Paris et pour Washington, c'est un camouflet qui n'est toujours pas passé. C'est une humiliation. Pendant 25 ans, vous vous occupez d'un problème, puis d'un coup, vous n'apparaissez plus au bas d'un document. C'est humiliant. Et donc, le point commun entre cette guerre des 44 jours et la guerre en Ukraine, c'est notamment un des points communs, c'est la désoccidentalisation de la région, de la périphérie, voulue par Moscou. Parce que lorsque Zelensky, le président Zelensky, en négociation, ne parvient pas à trouver langue avec Poutine, la volonté de Poutine, après l'annexion de la Crimée et le début de la guerre entre le Donbass et les forces russes ou pro-russes du Donbass et Kiev souverain, c'est justement pour Moscou de désoccidentaliser et de chasser le régime pro-occidental de Zelensky. D'abord de Poroshenko, puis après Zelensky. Et donc, il y a du côté de la Russie, cette volonté, tout en désoccidentalisant la périphérie, de réimpérialiser la périphérie. Vous voyez ce que je veux dire? De faire empire. Et c'est là où il y a un enjeu entre l'Ukraine, le Caucase, l'Asie centrale, pour l'Occident. C'est comment faire pour empêcher la Russie de faire empire? Eh bien, il faut renforcer la présence occidentale en Ukraine, en Moldavie, la Biélorussie, c'est à part, en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan et en Asie centrale. Donc on voit bien cette volonté de réguler le retour de la Russie pour l'empêcher de faire empire. Et c'est ça un des points communs. Mais il y en a d'autres. Il y a la CPI, il y a le volet militaire, il y a le volet systémique, c'est-à-dire ce monde qui est de moins en moins aux mains des Occidentaux, qui serait un monde en transition. Et la guerre au Caucase, comme la guerre en Ukraine, caractérise, traduise cette fragmentation du monde vers quelque chose que l'on ignore et qui nous fait peur à nous tous, humains, société civile.
De ce que je comprends, il y a une interdépendance entre Arménie, Azerbaïdjan, Russie. Et est-ce qu'on peut imaginer un scénario où l'Arménie, l'Azerbaïdjan arrive à s'émanciper de la Russie et devenir plus dépendante? Alors, et où sont les ressources pour le faire?
Alors, vous avez raison de mettre l'accent sur l'interdépendance, mais ce n'est pas que ces trois pays. C'est le monde qui est interdépendant, mais restons sur votre exemple, c'est-à-dire Arménie, Azerbaïdjan, Russie. Bah, d'abord, c'est l'héritage des empires et l'héritage de l'Union soviétique. Ensuite, vous avez un point commun ou une interdépendance qui est liée à l'idéologie maîtresse dans la région, qui est le nationalisme. Donc un nationalisme contre un autre nationalisme. Un nationalisme outrancier du côté arménien et un nationalisme raciste, limite. Ouais, on peut parler de racisme pour l'Azerbaïdjan à l'égard de l'arménien parce que la construction de l'État azerbaïdjanais se fait sur le rejet de l'élément arménien. Je veux dire, quand on est arménien en Azerbaïdjan, on est catalogué de virus. Donc, on nettoie le virus. Bref, ça, c'est la vulgate de l'Azerbaïdjan. Et du côté arménien, vous avez également cette outrance, c'est-à-dire que, alors par esprit de défense peut-être, mais aussi par une volonté de vouloir maîtriser ce qui se passe chez les voisins, eh bien, il y a cette volonté de rejet. En fait, la question du nationalisme renvoie à la question de l'identité, mais aussi à la question de l'altérité. Qui est l'autre? Est-ce que c'est mon égal ou pas? Alors, Si on veut sortir de cette animosité, de cette conflictualité qui est très forte, qui est très élevée, hein, mais pas uniquement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, aussi entre la Géorgie et la Russie, et d'autres, on voit bien avec l'Ukraine et la Russie, en fait, il faudrait contenir la Russie dans sa volonté de faire empire, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, alors que la Russie cherche absolument à être l'arbitre de tous les conflits. Et donc, c'est imposer ce qu'on appelle la paix impériale. Or, pour l'Occident, il s'agit de mettre en place une paix juste. Et la paix juste, c'est quoi? C'est de favoriser le dialogue entre les différentes parties, mais en changeant de méthode. C'est ne plus être l'arbitre, mais être la force qui encourage, mais qui n'arbitre pas. C'est-à-dire que on encourage deux personnes à se parler, à trouver un terrain d'entente, mais la personne qui encourage les deux autres à se parler n'apparaît pas dans les débats. Alors que pour l'autre, pour la Russie, elle participe non seulement au débat, mais elle assiste aussi aux négociations. Et elle met son grain de sel. C'est la différence entre une paix impériale voulue par la Russie et une paix juste. Et donc, pour arriver à une paix juste, eh bien, il faut simplement changer de méthode. Mais c'est ce qui est le plus dur, parce que la Russie ne veut pas. Mais aussi faire comprendre qu'il en va de l'intérêt des deux États, voire des trois États du Caucase du Sud, à réduire l'influence de la Russie, et afin d'éviter de se retrouver mis sous tutelle, à nouveau, de Moscou. Parce que Moscou a toujours eu ce logiciel impérial, et si on veut avoir des États souverains forts, il va falloir que ces États en question, les trois du Caucase du Sud, puisqu'on reste sur la région, soient en mesure de prendre leurs responsabilités en assumant d'un côté des États souverains à renforcer, mais de l'autre côté, à aussi assumer des responsabilités au nom de la paix régionale, puisqu'à partir du moment où vous êtes un État souverain, vous avez des responsabilités envers vos collègues de la communauté internationale. Parce que c'est quoi, entre autres, la communauté internationale ? C'est une addition d'États qui, au nom de principes, de valeurs, de règles, etc., se mettent d'accord pour un système de quelque part de sécurité collective. Hein? Votre sécurité dépend de la mienne dépend de la vôtre. Et ça veut dire prendre ses responsabilités pour assurer pour l'ensemble de la grille des États un bien-être, une sécurité, une paix. C'est ça.
Et donc, si on parle du côté de l'Azerbaïdjan, de ce qui se passe actuellement, je voulais que vous fassiez un petit état des lieux de ce qu'est l'Azerbaïdjan, notamment en termes de liberté, d'autonomie des médias.
Ça va aller très vite. Et c'est pas faire injure, c'est une dictature. Regardez tous les classements des différentes ONG, que ce soit les médias, que ce soit la lutte contre la corruption, bref, tout ce qui relève des sociétés civiles et des transitions démocratiques. L'Azerbaïdjan est au fin fond du classement, avec la Corée du Nord et des pays comme ça. Donc, plus concrètement, c'est 10 millions d'habitants, mais ce sont 10 millions d'habitants qui n'ont pas le droit de sortir de l'Azerbaïdjan par voie terrestre. Il faut quand même le savoir. C'est-à-dire, on peut sortir par avion parce qu'on sait qu'on va y revenir, il y a de fortes chances, mais par voie terrestre, on n'a pas le droit de sortir de l'Azerbaïdjan. C'est quand même fou. Donc là, ça d'une part. Ensuite, l'opposition est totalement muselée. Vous avez plusieurs dizaines, voire même centaines, selon certaines ONG, de prisonniers politiques dans les prisons. Alors souvent, ils sont issus des minorités nationales, mais comme Bakou ne reconnaît pas les minorités, donc au moindre faux pas, entre guillemets faux pas, eh bien on est considéré comme subversif et directement à la prison. Et puis il y a des règlements de compte, une énorme corruption, et donc ça ne facilite pas du tout la transparence et la libéralisation de ce qu'on appelle la société civile. Non, c'est un régime ultra-autoritaire, quasiment dictatorial.
Et comment vous expliquez l'impunité que bénéficie l'Azerbaïdjan ?
D'abord, il faut remettre... il faut reconnaître à l'IF cette capacité de jongler entre les différentes tendances, les différentes parties, les différents pôles d'attraction, Occident, Russie, Iran, tout ça, mais aussi grâce à son gaz, qui était une arme de dissuasion, puisque aujourd'hui la Russie et l'Azerbaïdjan coopèrent au niveau du gaz. Et donc l'Azerbaïdjan vend du gaz à l'Europe, mais
à hauteur de 20%, il s'agit de gaz russe. Donc vous imaginez, à un tarif élevé. Et la part qui revient à la Russie est énorme. Alors qu'on nous dit qu'il y a une volonté de rompre toute transaction gazière et pétrolière avec la Russie. Et puis du côté... Union européenne-Azerbaïdjan, vous avez aussi la même coopération, puisque Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait déclaré en 2022, je crois, que l'Azerbaïdjan était un partenaire fiable, mais pour des raisons d'inclusion du Caucase du Sud dans, je dirais, la dynamique et le giron occidental. Parce que toute la difficulté de l'Occident consiste à récupérer l'Arménie sans perdre l'Azerbaïdjan. Donc ça veut dire ne pas aller au bout d'une logique avec Bakou afin de ne pas perdre l'Azerbaïdjan, tout en rassurant l'Arménie sur le fait qu'il n'y aura pas de guerre. Mais il y a un point d'interrogation parce que le conflit du Caucase se situe entre deux conflits majeurs qui vont peser, qui vont avoir un impact sur l'avenir du Caucase, c'est-à-dire l'évolution de la guerre en Ukraine et l'évolution du conflit entre Israël et Gaza, mais surtout, enfin le Hamas, mais surtout entre Israël et l'Iran. Et Israël-Iran, l'Azerbaïdjan est particulièrement exposé, voisin de l'Iran, mais en même temps allié d'Israël. Et également Russie-Ukraine, où là l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont aussi directement concernés par l'évolution. En gros, si la Russie l'emporte contre l'Ukraine, j'y crois pas, mais imaginons, prenons cette hypothèse, eh bien c'en est fini de la souveraineté de toutes les républiques post-soviétiques. Si la Russie perd, j'y crois pas non plus, mais si la Russie perd contre l'Ukraine, à ce moment-là, c'est toute la périphérie de la Russie qui risque d'être grignotée par l'Europe, par la Turquie, par l'Iran, par la Chine. Donc on est dans un entre-deux qui est plus que sombre pour tous ces pays.
On n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même envie de vous poser une dernière question. De ce que j'ai compris à travers les lignes de votre ouvrage, on a l'impression que l'Arménie doit absolument construire un État fort pour s'en sortir. Et donc, par quoi cela passe ?
Alors vous avez bien raison de mettre l'accent sur la construction de l'État, parce qu'en fait, l'État ne s'est pas construit depuis la chute de l'Union soviétique. Ça passe par une prise de conscience, déjà. Ça passe par une formation des élites. Ça passe par un effort gigantesque mis au service de l'éducation. Ce n'est pas uniquement en Arménie, mais c'est un peu valable partout, même en France, d'ailleurs. C'est de retourner aux fondamentaux. Et notamment, donc, cet effort surdimensionné du pouvoir, du savoir, des connaissances pour asseoir de nouvelles élites dans cette république en transition.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview.
Merci Rémi, merci pour ces questions intéressantes.
Merci beaucoup, je remercie la librairie Luciole de m'avoir accueilli. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à la prochaine.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !